L'Iran et l'AIEA parviennent à un accord temporaire pour maintenir les inspections nucléaires essentielles pendant 3 mois. Au Yémen, 48 mercenaires à la solde du gouvernement démissionnaire de Mansour Hadi ont été tués ou blessés. Et le ministre libyen de l'Intérieur échappe à une tentative d'assassinat à Tripoli. C'était les principaux titres. En voici le journal. Un accord temporaire a été conclu dimanche 21 février à Téhéran, la capitale iranienne, entre l'Organisation de l'énergie atomique d'Iran, OIEA, et l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, en vue de maintenir les inspections essentielles pour une durée de 3 mois. L'accord a été annoncé peu avant minuit dans une déclaration conjointe du directeur de l'AIEA, Ali Akbar Salehi, et du directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi. La déclaration a été publiée sur le site officiel de l'AIEA après une visite d'une journée de M. Grossi à Téhéran. La déclaration conjointe reconnaît que l'Iran mettra fin le 23 février aux mesures volontaires définies dans l'accord international de 2015 sur le nucléaire iranien, officiellement connu sous le nom de plan global d'action conjoint. La date butoir du 23 février a été fixée par le plan d'action stratégique pour la levée des sanctions, une loi adoptée en décembre 2020 par le Parlement iranien. Cette loi autorise le gouvernement iranien à cesser d'appliquer le protocole additionnel de l'AIEA si les sanctions contre l'Iran qui devaient être levées dans le cadre du plan global d'action conjoint sont toujours en place à cette date. Pour permettre à l'AIEA de poursuivre ses tâches d'inspection au-delà de cette date, l'AIEA et l'AIEA sont convenus que l'AIEA continuerait à appliquer pleinement et sans restriction l'accord de garantie qu'il a passé avec l'AIEA. Un accord technique temporaire compatible avec la loi du Parlement iranien a été conclu, en vertu duquel l'AIEA poursuivra ses activités essentielles de vérification et de surveillance pour une durée allant jusqu'à 3 mois, indique la déclaration conjointe. Le chef de la diplomatie iranienne a lancé une mise en garde à l'adresse d'Israël. Attaquer l'Iran est un acte suicidaire de la part d'Israël. Selon le ministre iranien des Affaires étrangères, Israël mettra en péril la sécurité des pays du bassin du Golfe Persique s'il décide d'attaquer l'Iran. Les voisins de l'Iran ont commis l'erreur de laisser Israël entraîner le conflit sur leur territoire. Israël va bientôt saper la sécurité de ces pays alors qu'ils ne pourront pas se défendre, a indiqué le ministre iranien Mohammad Javad Zarif dans une interview accordée dans la nuit de dimanche à lundi 22 février à la chaîne de télévision libanaise Al Manar. L'Arabie saoudite ne peut pas négocier ce qu'elle n'a pas été en mesure d'obtenir sur le plan militaire. Elle a prétendu mettre court à la guerre au Yémen dans 3 semaines. Aujourd'hui, 6 ans plus tard, elle n'y est toujours pas parvenue, a-t-il précisé. Quant aux politiques de la nouvelle administration américaine à l'égard de l'Iran, M. Zarif a indiqué qu'il valait mieux pour Biden de ne pas poursuivre la politique de son prédécesseur Trump, car elle ne fonctionnera pas. 48 mercenaires à la solde du gouvernement démissionnaire de Mansour Hadi ont été tués ou blessés ces dernières heures dans des affrontements qui sévissent dans la périphérie de Marib. Des sources tribales basées à Marib ont rapporté que 21 mercenaires pro-Hadi avaient été liquidés et 27 autres blessés à l'entrée ouest de Marib, où d'intenses affrontements font rage entre les deux camps, sans oublier que les combattants d'Ansarallah franchissent des pas géants ces dernières heures. Simultanément, les combattants yéménites ont pris le contrôle des 2 zones situées près du barrage de Marib. Auparavant, il avait été convenu que ces zones seraient réservées aux déplacés et à l'écart des affrontements, mais les mercenaires pro-Hadi ont servi les 2 zones pour enrayer la progression des forces de Sana'a en direction de Marib. Le ministère de l'Intérieur du gouvernement de Sana'a a affirmé qu'une opération spéciale de sécurité avait été menée pour prendre d'assaut une prison appartenant aux mercenaires affiliés à Hadi dans la ville de Marib. 9 prisonniers ont été libérés. L'opération a été menée après que les enquêtes du ministère de l'Intérieur ont confirmé que les mercenaires de l'agression saoudienne avaient vendu 2 prisonniers de l'armée et des comités populaires à un officier saoudien, un dénommé Hossein Sharaf Ahmad Jahaf. Un certain nombre d'hommes armés de la milice TFS soutenus par les forces d'occupation américaines ont été tués et d'autres blessés dans une attaque qui avait visé leur voiture dans la banlieue sud de Hasakeh et c'est l'est de Deir ez-Zor. Des sources locales ont fait savoir à l'agence presse officielle syrienne Sana qu'une voiture appartenant à la milice des FTS avait été visée aux armes automatiques sur l'autoroute Jadadi-Dajisha dans la banlieue sud de Rasaké, ce qui a fait un tué et deux blessés parmi les hommes armés des FTS. Dans la banlieue est des réseaux, des sources locales ont précisé que deux hommes armés de la dite milice avaient été tués à la suite de l'explosion d'un engin explosif planté dans un véhicule militaire qui les transportait dans la localité d'Al-Barouz. Les forces d'occupation israéliennes ont arrêté ce lundi 22 février 19 Palestiniens dans des zones différentes en Cisjordanie. L'agence de presse palestinienne Wafa a précisé que les forces d'occupation israéliennes avaient pris d'assaut le quartier de Rafr Arab, au nord de la ville occupée d'Al-Rots, au milieu du lancement de bombes à gaz toxique, ce qui a fait un certain nombre de Palestiniens étouffés et elles avaient également arrêté un Palestinien. Les forces d'occupation ont attaqué ce lundi à nouveau les agriculteurs palestiniens au sud de la bande de Gaza assiégée. Les forces d'occupation avaient ouvert le feu de leurs mitrailleuses sur les agriculteurs palestiniens à l'est de Khan Younes, au sud de la bande de Gaza, les forçant à quitter leurs terres. Le ministre de l'Intérieur du gouvernement libyen, soutenu par l'ONU, a réchappé dimanche à une tentative d'assassinat par des hommes armés non identifiés dans l'ouest de Tripoli, la capitale du pays, a déclaré le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. À 15h, heure locale, 13h GMT, une tentative d'assassinat a pris pour cible le ministre de l'Intérieur, Fatih Bachara, alors qu'il revenait de sa résidence dans le district de Dansour, dans l'ouest Tripoli. Une Toyota blindée a ouvert le feu sur le convoi du ministre à l'aide de mitrailleuses, précise le communiqué. Les gardes du corps de M. Bachara ont riposté vers les tireurs, tuant un homme armé et en capturant deux autres, indique le communiqué, ajoutant qu'un des gardes avait été également blessé. Le gouverneur de l'État nigérian de Niger, Abou Bakar Sani Bello, a déclaré dimanche que le gouvernement de l'État avait réussi à obtenir la libération des 53 passagers enlevés par des hommes armés le 14 février dans le village de Kondou de l'État. L'incident s'est produit trois jours avant l'enlèvement largement médiatisé d'un grand nombre d'étudiants et de membres du personnel du Government Science College dans la ville de Kagara dans l'État du Niger. S'adressant aux journalistes à Minna, la capitale de l'État, le gouverneur a déclaré que les passagers du bus avaient été libérés après une série de dialogues, de consultations et de travail acharné. Sur les 53 personnes enlevées qui ont été libérées, 20 sont des femmes, 24 des hommes et 9 des enfants, a déclaré M. Bello, ajoutant qu'elles allaient subir un examen médical et une évaluation avant de retrouver leur famille. Le gouverneur a également déclaré que des efforts étaient toujours en cours pour sauver les étudiants qui avaient été enlevés par un groupe d'hommes armés non identifiés à la suite d'une attaque sur l'école mercredi dernier. Et le président algérien Abdelmadjid Tebboune a procédé dimanche à la dissolution de l'Assemblée populaire nationale, APN, chambre basse du Parlement, et opéré un remaniement partiel dans le gouvernement de Abdelaziz Djerad, qui a été maintenu à la tête de l'exécutif. Dans un premier temps, le chef de l'État a signé un décret présidentiel portant dissolution de l'APN. Dans la même journée, il a remanié le gouvernement en maintenant toutefois à changer les ministres régaliens, défense, affaires étrangères, intérieures, justice et finances, à l'exception de celui de l'énergie. En vertu de ce remaniement ministériel, le nombre des départements ministériels passe à 36 ministres, ministres délégués et secrétaires d'État, au lieu de 39 dans le précédent gouvernement. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. TMP, le J+1 du retrait iranien. Que se passera le 23 février en Iran, après tous les manquements de l'Occident à ses engagements pris dans le cadre de l'accord nucléaire? Le mardi 23 février, la République islamique d'Iran cessera d'appliquer le protocole additionnel de l'AIOA dans le cadre d'une loi adoptée par le Parlement iranien intitulée « La mesure stratégique pour l'annulation des sanctions et la protection des intérêts de la nation iranienne ». Cette loi composé de 9 articles et de notes, a été ratifié lors d'une séance plénière qui s'est tenue le 2 décembre 2020 avant d'être tout de suite approuvé par le Conseil des gardiens de la Constitution. La loi fixe une période maximale de 3 mois pour que le gouvernement fasse porter à 1 000 le nombre des centrifugeuses M2IR et une période de 12 mois pour qu'il fasse porter à 1 000 le nombre des centrifugeuses 6IR. La loi indique également une période de 5 mois pour que l'usine de production d'uranium métal à Ispahan soit mise en service, qu'un réacteur soit construit et que le réacteur de Khandab en Arak soit optimisé et mis en application. Par ailleurs, l'article 6 de la loi contraint le gouvernement de mettre un terme sur l'application volontaire du protocole additionnel de l'AIOA 2 mois après l'entrée en vigueur de la loi. Si les pays signataires de l'accord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Chine et Russie, n'honorent pas leurs engagements envers l'Iran, que les relations interbancaires ne sont pas rétablies, que les obstacles à la vente de pétrole et produits pétrochimiques ne sont pas levés et que les revenus de la vente de pétrole ne sont pas facilement et rapidement récupérés. En vertu du protocole additionnel appliqué dans le cadre du TNP, traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, l'Agence internationale de l'énergie atomique se réserve le droit d'avoir accès à n'importe quel site. Dans la foulée, Kazem Gharibabadi, l'ambassadeur et représentant permanent de l'Iran auprès des organisations internationales à Vienne, a déclaré que l'application de la loi sur la mesure stratégique pour l'annulation des sanctions et la protection des intérêts de la nation iranienne était une réaction stratégique aux politiques de Donald Trump pendant les dernières années ainsi qu'à l'inaction d'autres signataires de l'accord nucléaire. Il a ajouté que cette loi était réversible en cas du retour d'autres parties à leurs engagements et de la levée de toutes les sanctions visant l'Iran. Lors d'une interview exclusive accordée à la chaîne d'information Presse TV, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a déclaré « Nous discutons avec Grossi de toutes les questions majeures ainsi que de prochaines mesures de l'Iran pour alléger ses engagements pris dans le cadre de l'accord nucléaire. Mais ils ne sont pas autorisés à avoir accès à des images enregistrées par les caméras de surveillance installées dans les centres nucléaires de l'Iran avant que les États-Unis ne rejoignent l'accord nucléaire. Nous envisageons aussi d'entreprendre d'autres mesures. » Tôt ou tard, les États-Unis comprendront que leur politique vis-à-vis de la République islamique d'Iran ne menait à rien et qu'ils devaient finalement la modifier, a souligné le chef de la diplomatie iranienne.